RCF. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Donc vous êtes dans l'émission Les Neveux de René, Chemin de Pensée sur RCF. Donc je suis avec Nazim Fattès, Anne Bonneau et Nicolas Lemoine, moi-même Sylvain Quentin-Sauvivier, pour discuter donc de philosophie. Et nous allons commencer donc le troisième volet du cycle d'émissions sur le Criton. Donc nous étions restés justement dans la dernière mission sur une difficulté notamment liée à Nietzsche, donc on va y revenir juste après le résumé de l'émission précédente par Nicolas.
Alors, la semaine dernière nous avons progressé dans le dialogue du Criton. Criton est un ami de Socrate, prêt à soulayer les gardiens pour faire échapper Socrate, pour que Socrate échappe à sa condamnation à mort, prononcée de façon régulière par un tribunal d'Athènes. Socrate refuse et dialogue avec Criton pour le conduire à approuver sa conduite. Il s'imagine dialoguer avec les lois, c'est ce qu'on appelle la prosopopée des lois du Criton, et ces lois disent « En t'échappant de façon illicite, tu détruis la loi et l'État ». Alors nous expliquons cela en disant que si chacun se croit autorisé à transformer les lois de façon arbitraire, en fonction de sa propre vision de la justice ou de sa situation du moment, l'État ne peut pas tenir. L'harmonie de la cité est menacée et la guerre de tous contre tous guette. On cite Montesquieu, qui écrit dans L'Esprit des lois, « La liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais ce que les lois permettent. » Socrate poursuit, « Quand bien même on aurait subi une injustice, on n'a pas le droit de se révolter contre les lois qu'on a acceptées de fait en vivant dans la cité où elles s'appliquent, et dont on a profité, puisqu'elles ont organisé le cadre de la naissance du citoyen et de son éducation. Donc les lois sont aux citoyens comme une mère. On doit leur obéir, et si on les trouve injustes, on peut essayer de les changer, mais par voie légale. En aucun cas, on ne peut exercer une violence contre les lois, et qui est la plus impie des violences, plus impie encore que la violence contre père et mère. Nous introduisons enfin un extrait du Crépuscule des idoles de Nietzsche, racontant l'histoire de l'idée platonicienne.
Alors justement, sur cette histoire de Crépuscule des idoles, donc là j'aimerais bien qu'on revienne rapidement au moins sur quelques éclaircissements concernant ces textes.
Le mot-clé qui a été prononcé par Nicolas lors de son résumé, il a parlé de l'harmonie de la cité. Mmh. Or, il me semble que chez Platon, l'harmonie de la cité ne peut exister que comme une harmonie du monde. En fait. Et donc, le philosophe, encore une fois, hein, c'est pas celui qui a des diplômes de philosophie, c'est celui qui reste toujours dans l'ouvert, dans l'étonnement, dans le dialogue, pour faire sien ce questionnement sur le monde et permettre à ce que des lois bonnes dans la cité se créent en harmonie avec le monde. Donc c'est parce que l'âme a accès à l'harmonie du monde qu'elle est capable de créer des bonnes lois. Donc ça, c'est vraiment le travail que va faire Platon. D'accord ? Alors vous allez me dire, quel est le rapport avec Nietzsche ? Bon, c'est que Nietzsche récuse cette vision platonicienne. Il tente, par des moyens qui sont les siens, de la détruire, en disant « je n'y crois pas ». N'y crois pas. Et donc, il va, en tant que philosophe, récapituler les différents mouvements de la métaphysique. Et c'était ça qui avait été lu donc et par Daniel Moise et par moi lors de la séance précédente. Donc, est-ce que vous souhaitez qu'on la relise ?
Oui, on peut revenir.
Donc la partie qui est extraite du Crépuscule des idoles dit « Comment, entre guillemets, le monde vérité devint enfin une fable, histoire d'une erreur ?» Donc, le, entre guillemets, monde vérité, accessible aux sages, aux religieux, aux vertueux, il vit en lui, il est lui-même ce monde. Entre parenthèses. La forme la plus ancienne de l'idée, relativement intelligente, simple, convaincante. Périphrase de la proposition « Moi, Platon, je suis la vérité ». C'est ça qu'essaye de nous faire voir Nietzsche, c'est que il y a quelque chose de nihiliste dans le mouvement de Socrate, dans le sens où il voit dans ce mouvement un refus de la vie. Socrate dit qu'il était vieux, il était lassé de la vie, et c'est ça qui explique son geste, quand bien même il le déguiserait derrière un discours visant à donner à l'homme l'accès à la vérité. Voilà. Que penser de ce que dit Nietzsche ? Quelqu'un veut répondre ?
Non, enfin, cet aspect-là, on ne le voit pas du tout, il me semble, dans Criton, mais il me semble qu'il y avait, il y avait un aspect comme ça dans l'apologie de Socrate. Sur justement la fatigue de Socrate, et je crois qu'elle apparaissait un petit peu dans l'apologie, et on ne le voit pas du tout effectivement dans le Criton.
Dans le Criton, il y a quand même Socrate à un moment donné qui dit qu'il est âgé, hein, effectivement, au moment de son procès, donc quand il va être mis à mort, il a plus de 70 ans. Hein.
C'est ça, et il dit qu'il serait sot de fuir la mort à son âge, qu'il va arriver de toute façon
bientôt.
Mais
ça ne veut pas dire qu'il est lassé, en fait.
Non, il
ne dit pas ça.
Il ne dit pas du tout qu'il est lassé dans le Criton.
C'est tout à fait la même chose.
Mais ce que Nietzsche ne supporte pas, c'est la sérénité avec laquelle Socrate a connu la mort.
Oui, Anne ?
Non, je veux dire aussi sur ce qui présidait justement aux lois dans le Criton, dans ce qu'on nous dit dans le Criton. Ce n'est pas du tout ce qui apparaît dans Montesquieu. Justement, ça c'est un point de vue tout à fait différent. Et Montesquieu nous explique, il fait un peu un travail d'anthropologue, hein, et il nous explique que les lois, elles viennent de plein de choses. Elles viennent du climat, elles viennent du peuple, elles viennent de la géographie, elles viennent de l'histoire, elles viennent de la religion. Évidemment, à la fin, c'est plutôt les critères moraux qui l'emportent. Mais voilà, il y a quelque chose de beaucoup plus basé dans le réel et dans le concret pour décrire les lois que ce qu'on peut voir chez Platon.
Et ce qui est intéressant, c'est que justement, on voit que les lois sont issues d'un processus. Vraiment d'un processus, un peu comme on disait, un peu comme une sorte de calcul, qui n'est pas évidemment tout à fait la même chose qu'un calcul mathématique, mais qui est quand même, qui n'est pas arbitraire en fait.
Qui n'est pas arbitraire, mais qui est d'un nombre de paramètres très importants.
Mais ça, Sylvain, c'est très pas platonicien, le fait que ce ne soit pas arbitraire. C'est-à-dire, ce n'est que dans la mesure où ton âme a accès à une vision de la vérité, dans la mesure où ton âme est soignée, et où l'accès à la vertu, donc arrêter hein, en grec, un mot qui sera toujours central. Il faut lire Platon en ayant une attention à ce mot vertu et arrêter, qui sera ensuite transformé de nos jours. C'est, on ne parle plus de vertu, on ne parle que de valeur, du matin jusqu'au soir, les hommes politiques ne parlent que de valeur. Et précisément, Nietzsche, son but, c'est de retourner les valeurs, de montrer que tout ce qui s'est passé jusque-là, donc y compris Montesquieu, hein, puisque c'est une continuation de ce mouvement-là, était une sorte de supercherie, et sa tentative va être de revenir à quelque chose peut-être de plus originel. Mais voilà, inverser les valeurs, c'est aussi rester prisonnier de l'idée de valeur. Bon, aussi, hein, faut pas oublier.
Il faudra qu'on fasse des émissions sur Nietzsche un peu plus tard pour éclaircir ces points qui sont pas évidents, hein, c'est clair. Alors par rapport justement à Socrate, lui, pour le coup. Il y a quand même des éléments qui sont vraiment concrets, hein, dans ces argumentations, justement pour respecter les lois. Donc c'est pour ça que là ça paraît un peu discutable ce que nous dit Nietzsche, notamment sur le fait que, puisque Socrate a l'impression d'avoir été injustement condamné lors de son procès, il ne peut pas justement se conduire comme ces juges de la façon dont ces juges
l'accusent de cette
conduite. Voilà, c'est ça. Exactement.
C'est-à-dire que s'il échappe illégalement à sa condamnation,
exactement.
Du coup, il se conduit.
Bah, il donne raison à ses juges. Alors justement, il y a un moment donné où il le dit, hein, clairement. Donc c'est 53b, hein, dans la pagination estienne. Même, 53c, pour être précis. Donc quiconque en effet détruit les lois peut justement être considéré comme capable de perdre les jeunes gens et les esprits faibles, ce dont il était accusé dans le procès. Donc c'est bien pour montrer qu'il a quand même une argumentation qui est concrète, enfin qui est pragmatique et qui s'appuie sur des choses, on va dire, issues de la raison aussi.
Et cette idée-là, on l'a retrouvée dans le Gorgias, avec l'idée que subir l'injustice est pire que la commettre.
Oui.
Non, le contraire. Commettre l'injustice est pire que la subir.
Je veux dire aussi qu'il y a une fausse idée sur le choix qu'on a, sur la liberté qu'on a de changer de société. Parce que finalement, si on change, on dit tu avais le choix, parce que tu pouvais partir, et ça, c'est pas vrai. Parce que si on change de société, en particulier pour aller vers une société qui est relativement libre, eh bien, on va se trouver confronté exactement au même problème. On va être mal vu. Si on a brisé les lois de la société d'où on vient, on va être mal considéré. Donc, on n'aura pas plus de bonheur dans cette autre société.
Tout à fait, oui. Donc le respect des lois est quand même important.
Voilà, c'est-à-dire que grosso modo, on ne peut pas vraiment y échapper.
Exactement. Parce que si on arrive dans une cité avec des bonnes lois, en ayant la réputation d'avoir violé les lois d'une autre cité, forcément on va y être accueilli avec beaucoup de suspicion.
Alors par contre, c'est vrai que d'un autre côté, ce qui est parfois un peu étonnant et ce qui revient souvent chez Socrate, donc Platon, c'est aussi ce lien avec les mythes, hein, notamment un peu plus loin, hein, donc en 53C, au 54C, pardon, on voit que là, il parle justement du problème de ne pas répondre à l'injustice par l'injustice. Et ce qui est marrant, c'est qu'il fait appel à l'Hadès, du coup, pour ça. Hein, donc si je cite, donc c'est les lois qui parlent, hein, toujours à Socrate. Aujourd'hui, si tu quittes la vie, tu la quitteras condamnée injustement. Non point par nous, les lois, mais par des hommes. Si au contraire, tu t'évades en répondant si honteusement à l'injustice par l'injustice, au mal par le mal, en violant tes propres accords et tes engagements envers nous, en lésant ceux que tu devais le moins léser, toi-même, tes amis, ta patrie et nous enfin, alors nous nous irriterons contre toi, dès cette vie, et chez Hadès, nos sœurs, les lois de là-bas, ne te feront pas bon accueil, sachant que tu as voulu nous détruire autant que cela dépendait de toi. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré toute l'argumentation raisonnable ou raisonnée que peut avoir Socrate pour respecter les lois, il y a un moment donné où on a l'impression qu'il ne peut pas s'empêcher de faire appel à quelque chose de supérieur, de mythique. Quoi.
De toute façon, il faut rappeler la mission de Socrate. Hein. Oui, il faut la rappeler. Socrate, il ne vient pas comme penseur. Il vient comme envoyé des dieux, messager des dieux. Hein, Donc, il dit « Je suis le plus pieux d'entre les Athéniens ». Et souvenez-vous que dans l'Apologie, il parle de l'oracle de Delphes qui dit « J'ai été consulté ». En fait, c'est pas lui, c'est Chéréphon.
Qui a été consulté pour lui l'oracle de Delphes et qui lui a rapporté que Socrate était le plus sage des hommes et que vie il a enquêté pour comprendre le message de ce dieu. Il en était arrivé à la conclusion que ce qu'il voulait dire par là, c'est que la sagesse humaine n'était pas grand chose.
Ce qui n'est qu'un des nombreux points qui relie Socrate à Jésus-Christ.
À quel point, pardon, tu disais?
Puisque tu dis qu'il est l'envoyé des dieux. Socrate est l'envoyé des dieux, donc Jésus est l'envoyé de Dieu, et donc Jésus a péri également et s'est sacrifié pour les hommes. On peut considérer que Socrate s'est probablement sacrifié pour la philosophie et donc quelque part aussi pour les hommes. Donc il y a des points communs, sans compter effectivement l'aspect disciple. Hein. Jésus va au devant des hommes avec ses disciples, exactement comme Socrate. Donc il y a beaucoup de points communs ici.
Je voudrais quand même montrer qu'il y a une différence de taille.
Moi, j'ai dit c'est un des points communs, j'ai pas dit que tout était identique.
Alors, je vous propose d'en parler après la petite pause musicale.
D'accord.
Et dont Nazim va nous donner les éléments.
C'est Hippolyte et Aricie, les cœurs d'Hippolyte et Aricie, Dieu Jean-Philippe Rameau.
Merci.
CF, Radio Chrétienne Francophone.
Donc, nous sommes de retour dans l'émission Les Neveux de René, Chemin de Pensée, et donc nous étions en pleine discussion autour de Jésus, du parallèle entre Jésus et Socrate. Donc, Anne, si tu veux reprendre, ou Nazim.
Oui. Oui, Anne, vas-y.
Oui, non, je citais les nombreux points communs qu'il y avait entre Jésus et Socrate, sans dire qu'ils étaient identiques, bien entendu.
Alors, il y a un point commun qui est effectivement le rapport à la divinité, puisque dans l'Apologie de Socrate, on dit que la Pythie de Delphes répond que nul n'est plus savant que Socrate. Et ça, c'est un sujet d'étonnement. Et Socrate va dire, moi... Je pensais que cet oracle était faux et donc j'ai commencé à voir les gens savants. Et à chaque fois que je discutais avec eux, je voyais qu'ils n'étaient pas plus savants que moi. Donc je compris que mon savoir résidait dans...
C'était même pire que ça, parce que lui-même savait qu'il... Enfin, c'est le problème de savoir qu'il ne sait pas, alors que les savants pensaient savoir des choses et qu'au final,
c'est ça.
C'était
donc,
pas si évident.
La question qu'on peut se poser, c'est quelle est le visage de la vérité qui se fait. Je crois qu'il faut séparer radicalement donc le discours philosophique du discours religieux, et notamment monothéiste, hein, qu'il soit juif, chrétien ou musulman, parce que le terrain d'où se propose la vérité, d'où la vérité accède à l'être humain, est totalement différent. C'est-à-dire, ici, les dieux sont présents, il y a cette illumination des dieux, mais il y a toujours le logos, la raison, la parole, et ainsi de suite. Mmh. Alors que dans la foi, ce qui est premier, c'est l'acte de foi lui-même.
Mais chez Socrate, l'acte de foi est présent aussi. Justement, avant de commencer la prosopopée des lois, Socrate s'assure que Criton partage avec lui une même conviction. Il dit « Il ne faut donc pas répondre à l'injustice par l'injustice, ni faire du mal à aucun homme, quoi qu'il nous ait fait. » Alors, prends garde, Criton, qu'en m'accordant cela, tu ne l'accordes contre ta pensée, car il y a, je le sais, il y aura toujours peu de gens pour en être convaincus. Or, entre ceux qui sont de cet avis et ceux qui ne le sont pas, il n'y a pas d'entente possible, et ils ne peuvent que se mépriser en voyant qu'ils prennent des directions opposées.
Ça, c'est très beau et très important.
Et donc, on retrouve exactement l'absence de dialogue possible entre Socrate et Calliclès dans le Gorgias, et donc ce dialogue du Gorgias qui se termine par un mythe de rétribution, post-mortem. Mmh,
tout à fait.
Et donc, l'argument de Socrate, ne pas rendre le mal pour le mal, qu'on retrouve également dans l'Évangile, eh bien, il repose complètement sur un acte de foi chez Socrate.
Oui, qui est sujet à ce qui se passe après la vie, finalement. Enfin, notre vie terrestre, en tout cas.
Alors, moi, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'un acte de foi au sens où on l'entend chez les monothéistes. C'est différent. C'est plus... Il faudrait presque regarder cette...
Socrate parle quand même de l'Hadès et des lois de l'Hadès.
Alors justement, j'y viens. Oui. Il faudrait peut-être plus prendre cette chose-là comme la convocation d'une parole poétique. Mm-hmm. Pas poétique au sens faible, hein, parce que pour nous, la poésie, c'est le travail de l'imagination, et ainsi de suite. Mais comme une façon d'accéder à la vérité, qui n'est qu'une des façons d'accéder. L'autre, ça va être le raisonnement, l'autre, ça va être ceci, cela, ça va être le dialogue, et ainsi de suite. Et donc, il y a de multiples façons d'accéder à la vérité par le mouvement philosophique.
Mais on peut retrouver des textes anciens, justement, dans la tradition juive, qui vont, à mon sens, plus loin que Socrate, dans la compréhension de ce qu'il raconte. Parce que finalement, Socrate a... peu d'arguments pour justifier ce qu'il dit, et ça conduit que lui-même reconnaît qu'il n'y a pas de dialogue possible entre ceux qui partagent sa foi, au fait qu'il ne faut pas répondre au mal par le mal, et ceux qui ne la partagent pas. Alors je vous propose donc la lecture d'un psaume. Donc les psaumes, c'est des livres très intéressants, ça ne raconte pas seulement Dieu, mais ça raconte tout ce que l'homme nu peut dire dans son intimité à Dieu, et donc ça dit beaucoup de l'homme. Donc c'est le psaume 72 dans la numérotation grecque, 73 dans la numérotation hébraïque. Et ça raconte ça. « Un rien et je perds des pieds. Un peu plus et je faisais un faux pas. Car j'étais jaloux des superbes. Je voyais le succès de l'impie. Jusqu'à leur mort, ils ne manquent de rien. Ils jouissent d'une santé parfaite. Ils échappent aux souffrances des hommes, aux coups qui frappent les mortels. Ils ricanent, ils prônent le mal. De très haut, ils prônent la force. Leur bouche accapare le ciel. » Et leur langue parcourt la terre. Ainsi le peuple se détourne vers la source d'une telle abondance. Ils disent, comment Dieu serait-il? Le Très-Haut, que peut-il savoir? Voyez comme sont les impies, tranquilles, ils amassent des fortunes. Vraiment, c'est en vain que j'ai gardé mon cœur pur, lavé mes mains en signe d'innocence. Me voici frappé chaque jour, châtié dès le matin. Si j'avais dit, je vais parler comme eux, j'aurais trahi la race de tes fils. Longtemps j'ai cherché à savoir, je me suis donné de la peine. Mais quand j'entrai dans la demeure de Dieu, je compris quel serait leur avenir. Vraiment, tu les as mis sur la pente, déjà tu les entraînes à la ruine. Alors il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce texte qui, à mon sens, est très riche. Alors d'abord, il y a la description d'un mot technique qu'on retrouve dans l'Évangile, qui est le mot scandale. Le mot scandale... dans notre vocabulaire à nous, c'est un agir qui entraîne une réprobation générale. Mais pour moi, c'est un sens extrêmement appauvri et qui ne dit pas tout ce qui se passe dans l'exemple public d'un agir mauvais. Le scandale, c'est un modèle qui surgit et qui est susceptible d'être imité par les autres. Et d'ailleurs, la société tente d'annuler l'effet du scandale en détruisant le modèle qui surgit, en le punissant, voire en le faisant disparaître carrément dans les sociétés plus archaïques, donc la personne, le modèle en tant que personne. Et la punition est d'autant plus sévère que la collectivité est tentée d'imiter le comportement déviant. Car le scandale, donc c'est ce que je disais, c'est une occasion de chute, une tentation pour tous ceux qui en sont les témoins. Et donc on voit des gens qui agissent mal, exactement, c'est la même chose que rapporte Socrate. On voit des gens qui sont des orateurs brillants, qui s'en sortent bien, qui ont l'air de dominer la cité. Et bien sûr, les jeunes gens ont tendance à vouloir les imiter contre le soin de l'âme que prône Socrate. Alors ce qui est très intéressant, c'est la fin du morceau que j'ai cité, c'est de se dire, alors il y a d'abord une période de déprime, c'est à quoi bon ? Ça c'est vraiment ça la tentation du scandale, c'est à quoi bon ? Pourquoi est-ce que je fais pas comme les autres ? Pourquoi est-ce que j'imite pas ceux qui agissent mal puisque finalement ils s'en sortent bien ? Et puis après donc, j'ai longtemps cherché à savoir et j'ai compris. Si la société qui se laisse aller à ça, elle va se ruiner. Elle court à sa perte. Et c'est pas quelque chose de post-mortem, là. C'est quelque chose de très terre-à-terre, parce que les Juifs ont un sens pratique quand même assez fort, et ils parlaient pas tellement de ce qui arrivait après la mort. C'était pas tellement leur truc. C'est maintenant, concrètement sur Terre, une société qui se comporte comme ça court à sa ruine, parce que tout le monde va imiter le mauvais agir, et la société, n'ayant plus d'unité, va se détruire elle-même.
Quelque part, ce que tu décris, c'est une société de la compétition. Et n'est-ce pas la société dans laquelle on est ?
Ben, la compétition dans le sens où, effectivement, on veut imiter celui qui est au-dessus des autres et essayer de jouer des coudes pour arriver au-dessus. C'est ce que décrivait Camus à travers le personnage de Clémence, qui voulait émerger au-dessus des autres, mais ils finissent par prendre conscience que finalement, les autres peuvent être tentés d'agir pareil. Et du coup, ça devient un jeu de coudes pour arriver le premier et émerger.
La question qu'on peut se poser, c'est au fond, de nos jours, qu'est-ce qui reste de cette parole ? À l'heure du rationalisme, est-ce qu'on ne peut pas se dire que finalement, faisons la compétition et que le meilleur gagne ?
Mais non, justement, parce que c'est un argument. Enfin, ce que décrit le psaume, c'est finalement très rationnel. C'est un phénomène qui est décortiqué, compris, dans le sens où si tout le monde imite tout le monde de façon anarchique,
oui, c'est ça, ouais.
On aboutit à la destruction de la société.
Oui,
c'est très rationnel,
par une
ça.
Compétition excessive.
Il n'y a pas besoin d'acte de foi pour comprendre ça.
Anne, tu as peut-être des réactions là-dessus ?
Non, par rapport à la question que tu posais, dans notre société actuelle, on a l'impression qu'on a oublié certaines choses qui sont dans Platon. Dans Créton, il y a au moins deux choses. Enfin, évidemment, il n'y a pas que ces choses-là. Mais il y a une chose déjà que la société donne. La société donne aux gens. Il est important qu'elle donne à tous, de manière égale.
Donc ça, c'est le thème de la reconnaissance.
Oui, de la reconnaissance. Qui arrive avant l'autre, on ne sait pas, peu importe, du reste. Et puis l'autre chose, c'est que on doit être aussi, reconnaissants, en fait, envers la société. Donc il y a ces deux aspects. Et on a vu ces deux aspects qui, à mon avis, sont un peu bafoués. Il me semble que la société ne donne pas forcément de manière égale à tous. Et il me semble que ceux qui ont ne sont pas forcément peut-être toujours reconnaissants envers la société. Donc il me semble que ces deux thèmes-là sont toujours bien présents, qui sont écrits dans
plus généralement, on peut généraliser. Il s'agit, encore une fois, je pense que dans une perspective platonicienne et du soin de l'âme, ce n'est pas que la société. C'est la société en tant qu'elle est reflet du cosmos. C'est ça qui
ordonnée,
est.
Ouais.
Ouais. En tant qu'elle est un ensemble ordonné qui doit refléter l'ensemble de l'univers. Et donc, questionner philosophiquement, c'est aussi questionner l'ordre de l'univers dans son ensemble et savoir si je peux le refléter ou si une telle chose existe ou non.
Très bien. Bah, écoutez, je pense que cela termine brillamment, ou en tout cas de manière assez intéressante, les émissions sur le Criton. Et donc, je vous remercie et on se retrouve pour la prochaine émission. Voilà.